Merci d'être avec nous sur RFI. Il est maintenant 14h, temps universel, 15h, ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Avec à la une de ce journal des descentes de police dans plusieurs villes des États-Unis, Donald Trump a lancé son opération d'expulsion de migrants clandestins comme il l'avait promis. 538 étrangers considérés comme des criminels ont aussi été arrêtés. Des méthodes de guerre utilisées par Israël en Cisjordanie selon l'ONU. L'État hébreu poursuit son offensive dans le territoire palestinien occupé alors que de nouvelles libérations sont attendues demain dans le cadre de l'accord de trêve dans la bande de Gaza. À suivre aussi tollé en France après le vote de plusieurs eurodéputés LFI contre une résolution demandant la libération de Boualem Sansal, l'écrivain incarcéré depuis plus de deux mois en Algérie. Et puis l'Open d'Australie de tennis, c'est fini pour Novak Djokovic. Le Serbe a abandonné pour blessure. Alexander Zverev sera en finale face à Yannick Sinner. C'était l'une de ses grandes promesses de campagne. Donald Trump a donc lancé une opération d'expulsion. Selon la Maison-Blanche, des centaines de migrants clandestins ont déjà été expulsés des États-Unis à bord d'avions de l'armée et 538 migrants considérés comme des criminels ont été arrêtés. Les raids de la police anti-immigration ont eu lieu un peu partout dans le pays. Nicolas Roca.
Oui, Charlotte, l'opération d'expulsion de masse la plus importante de l'histoire est en cours, a annoncé Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Ces mots désignent les opérations menées par la police anti-immigration, notamment dans de nombreuses villes dites sanctuaires. Des bastions démocrates comme Boston, Atlanta ou San Francisco. À Newark, en banlieue de New York, le maire a dénoncé une descente effectuée sans mandat. L'édile de Chicago, Brandon Johnson, a lui clairement indiqué que la police locale n'appliquerait pas les ordres de la police fédérale. Sébastien Natrol est journaliste spécialiste de la justice américaine.
C'est ce qu'on peut appeler schématiquement la séparation des pouvoirs verticales, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, lui, peut agir dans le sens qu'il désire, mais les États fédérés, eux, peuvent aussi aller à l'encontre de cela. Donc les États fédérés pourraient, eux, tout simplement refuser de prêter main forte à l'État fédéral pour lui faire comprendre que l'objectif qu'il s'est donné, il n'a qu'à l'atteindre lui-même.
Donald Trump a déjà étendu les pouvoirs de sa force fédérale anti-immigration, permettant des arrestations dans des lieux sensibles comme les églises ou les écoles. Une note du département de la sécurité intérieure rendue publique par le New York Times suggère que l'administration Trump ne cible pas seulement ce qu'elle appelle des criminels clandestins. Elle invite la police anti-immigration à s'intéresser aux cas de migrants bénéficiant d'un titre de séjour temporaire ou bien dans l'attente d'une décision de justice.
Nicolas Roca, et j'ajoute ces propos du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui souligne que le droit de demander l'asile est, je cite, universellement reconnu. L'ONU qui dénonce aussi des méthodes de guerre d'Israël en Cisjordanie. La vaste offensive lancée depuis mardi dans le territoire palestinien occupé a fait 12 morts. La Cisjordanie est bouclée avec des barrages qui se sont multipliés. Israël affirme traquer des terroristes. Cela fait suite, cette offensive, à l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre l'État hébreu et le Hamas. Une seconde série de libérations est prévue en principe demain. 4 otages israéliennes sont concernées en échange de détenus palestiniens. Le Hamas indique qu'il communiquera les noms des otages israéliennes aujourd'hui. L'autre versant de cet accord, c'est l'arrêt des combats dans la bande de Gaza, le retrait progressif de l'armée israélienne et l'entrée de l'aide humanitaire. Alors comment les premiers jours de ce cessez-le-feu sont-ils vécus par les Israéliens qui vivent près de la bande de Gaza? Nicolas Falaise s'est rendu à Sderot, la ville la plus proche de l'enclave palestinienne.
La guerre, elle va continuer après les otages. Lorsqu'ils arrivent, les otages ici, on va continuer.
Dans sa quincaillerie du centre-ville de Sderot, Simon en est persuadé. La guerre n'est pas terminée, seulement en pause.
Il faut recommencer, parce que Hamas, il ne peut pas continuer à vivre avec nous. Ça, c'est fini. C'est ce qui est arrivé le 7 octobre.
Les attaques ont fait environ 30 morts à Sderot. Ce jour-là, Elie Daniel a passé de longues heures terré dans un abri, puis cet étudiant réserviste a été rappelé pour 5 mois dans l'armée avant de reprendre sa vie ici à Sderot.
I'm happy for the ceasefire, but you know, I don't think we won.
Je suis content pour le cessez-le-feu, mais je ne pense pas que nous ayons gagné, dit-il. Ce n'est pas la première fois qu'on entre à Gaza, puis qu'on se retire, et puis tout recommence quelques années plus tard. C'est une sorte de cycle. Sderot ne ressemble plus à une ville fantôme. Pendant la guerre, les habitants y sont revenus progressivement, alors que les bombes s'abattaient sur Gaza toute proche. Récemment, Yarin s'est réinstallée ici avec ses 3 enfants, et aujourd'hui c'est le cessez-le-feu qui l'inquiète. Avant le cessez-le-feu, je savais que notre armée était à Gaza et qu'elle empêchait les Gazaouis de s'approcher de la frontière. Mais maintenant, on a l'impression qu'ils peuvent de nouveau s'infiltrer en Israël. On ne se sent pas en sécurité. C'est bien pire qu'avant le cessez-le-feu. Nicolas Falaise, Sderot, RFI.
Israël prévient par ailleurs que le retrait progressif de ses troupes du sud du Liban se poursuivrait au-delà des 60 jours prévus par l'accord de cessez-le-feu, donc au-delà de ce dimanche 27 janvier. Le gouvernement israélien estime que cet accord conclu en novembre n'a pas été complètement appliqué du côté de Beyrouth. Le Liban et le Hezbollah n'ont pas réagi pour le moment. Pas de cessez-le-feu, en tout cas dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements ont repris entre l'armée congolaise, ses alliés d'un côté, et en face les rebelles du M23 avec des militaires rwandais, combat notamment dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. La Turquie a proposé une médiation entre la RDC et le Rwanda. Des réactions en chaîne en France après le vote de plusieurs eurodéputés contre une résolution réclamant la libération de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien arrêté en Algérie mi-novembre. Cette résolution, elle a été adoptée hier au Parlement européen, mais pas validée par tout le monde. Victorien Guillaume, certains ont voté contre, notamment des eurodéputés de la France insoumise.
Un vote contre pour Rima Hassan, une abstention pour Manon Aubry et un tollé quasi immédiat. À droite, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce un positionnement politiquement scandaleux. À gauche, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann estime que c'est une honte car ce texte ne contient rien qui soit contestable. Alors Manon Aubry explique qu'elle a toujours été pour la libération de Boualem Sansal, mais que ce sont des responsables politiques d'extrême droite qui sont à l'origine de cette résolution et qu'ils utilise ce texte pour attiser les tensions. Deuxièmement, cette résolution menace de ne pas renouveler l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Et pour l'élu insoumise, cela revient à appeler à une confrontation. Il y a instrumentalisation par l'extrême droite de Boualem Sansal, concède un eurodéputé écologiste. Mais pour lui, l'utilité de la résolution européenne est le seul sujet qui vaille. C'est la libération d'un homme injustement détenu par le régime algérien.
Vers le rapatriement en France de Serge Atlaoui, ce Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue. Un accord a été signé entre Jakarta et Paris pour son transfert. Il est prévu le 4 février prochain. Un an de prison avec sursis pour Rodrigue Petitot en Martinique, surnommé le R, le leader contre la vie chère, condamné pour des menaces et actes d'intimidation envers le préfet de la Martinique. Un jugement clément par rapport aux réquisitions du parquet qui demandait minimum 15 mois de prison ferme. L'affiche de la finale de l'Open d'Australie de tennis, ce sera dimanche. L'Allemand Alexander Zverev, numéro 2 mondial, fera face à l'Italien Yannick Sinner. Belle affiche donc, et cela après l'abandon de Novak Djokovic en demi-finale face à Zverev. Djoko qui souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse. Malgré les antidouleurs, malgré les soins, il a dû abandonner en plein match, Arthur Franc.
Il a jeté l'éponge à la fin du premier set, long de 1h20. Novak Djokovic ne remportera pas un 25e titre du Grand Chelem dimanche. Touché physiquement lors de son duel face à Alcaraz au tour précédent, le Serbe a tout tenté. Mais il s'est résigné.
J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour gérer la déchirure musculaire, mais vers la fin du premier set, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de douleurs. À partir de là, c'est devenu trop dur à supporter. C'est une fin de parcours assez triste. Au moins, j'aurais essayé.
Un abandon dur à digérer pour les supporters serbes venus en nombre soutenir leur champion. Habitante de Melbourne, Shena ne cache pas sa déception.
C'était très dur de le voir s'arrêter là. En plus, il a très bien joué lors du premier set, tout comme Zverev. C'était un match superbe qui s'annonçait une bataille de 4 ou 5 sets. C'est vraiment triste, décevant. Mais je sais que si Djokovic a pris cette décision, c'est vraiment qu'il n'avait pas le choix.
À 37 ans, Novak Djokovic laisse planer le doute et n'est pas sûr de revenir en Australie. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Et rendez-vous donc pour la finale dimanche entre Sinner et Zverev. Pour le moment, on vous retrouve Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent.